Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte aujourd'hui une histoire très douloureuse. L'histoire de Camille Borin, tirée de son livre qui paraît au Cherche-Midi, « Tu m'as laissé en vie ». Camille était mariée à un agriculteur, Augustin, éleveur de porc dans la Somme. Assommé par une masse de problèmes intimes et la crise du porc, il s'est pendu en octobre 2017, la laissant veuve à 24 ans. Une histoire que j'ai écrite avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je m'appelle Camille. Quand Augustin, mon mari, éleveur de porc dans la Somme, s'est pendu le 27 octobre 2017, j'avais 24 ans, et lui 31. L'histoire qui va suivre est mon histoire, ma vie. Tout est vrai, rien n'a été arrangé. Le suicide agricole ne se résume pas à des statistiques. Derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Ceux qui partent, et ceux qui restent. Ma vie n'est pas un roman. Voici mon histoire vraie. J'ai 15 ans. Un drôle d'âge pour une fille. Certaines sont des ados, encore un peu gamines. Mais moi, je suis une femme. Ma vie m'a forgé une maturité avant terme. Et physiquement aussi. Hein. J'ai des hanches, de la poitrine, je me maquille, je suis une adulte. J'ai grandi à Montreuil-sur-Mer, une citadine. L'école ne m'a jamais intéressé. Je vais essayer d'avoir mon brevet. Ça sera déjà ça. Au mois de février 2008, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, je vois une publicité à la télévision pour un site de rencontre. Je m'inscris. Et c'est comme ça que je rencontre Augustin. On s'échange nos numéros de portable, on poursuit la conversation par SMS. Il a 22 ans et moi donc 15. Et dès ses premiers messages, il me dit qu'il est agriculteur, éleveur de porc. Il n'a jamais quitté sa ferme familiale, sauf une semaine pour aller en classe de neige. Et il me le dit d'entrée. Si ça devient sérieux, il faudra accepter la ferme. Ça me pose pas de problème. Notre première rencontre, je me souviens, c'est un dimanche, le 30 mars 2008. Ça fait 5-6 semaines qu'on se connaît par SMS. On se donne rendez-vous devant chez moi, dans la rue.
Bonjour. Bonjour.
Il a un beau sourire, franc, et on tombe dans les bras l'un de l'autre. Tout de suite, Augustin me parle beaucoup de sa ferme. Et puis, un week-end, environ 3 semaines après notre rencontre, une paire de bottes et hop, j'y vais. Et une chose me frappe d'entrée, la promiscuité. Il y a plusieurs maisons, la sienne, celle de sa grand-mère, presque collée. Et autour, tout près, les hangars du matériel et les bâtiments des cochons. Une vie en vase clos. Et l'odeur? L'odeur des cochons, on s'y habitue vite, hein. Mais la première fois que j'ai rapporté mon linge à laver à ma mère, je me suis aperçu que ça imprégnait les vêtements. À la ferme, Augustin travaille avec son frère, Thomas. Leur mère passe de temps en temps, mais sans participer aux travaux. Et donc assez vite, je m'y mets moi aussi, un week-end pour la moisson, car Augustin cultive la nourriture de ses cochons. Ah, les journées de folie! Et après le week-end, comment rentrer chacun chez soi? Non! On se dit, on est fait l'un pour l'autre, pourquoi attendre? Bien sûr, je n'ai que 15 ans, mais en général, les gens me disent
« T'as 15 ans ?» Mais c'est pas possible.
J'en parle à ma mère. Elle ne cherche pas à m'en empêcher. Et donc je quitte Montreuil-sur-Mer, ses commerces, sa vie, pour une ferme située bien en retrait d'un village d'à peine 500 habitants. Loin de tout. Mais avec Augustin. Je savais qu'Augustin n'avait plus son père. Mais il ne m'a pas tout dit d'un coup, il a fallu du temps. Un soir, son père allait très bien, et le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Personne n'a jamais su, ni comment, ni pourquoi. Oh, Augustin, le jour où on a parlé de ça, j'ai senti ton malaise. Tu n'as pas accepté la disparition de ton père et la façon dont ça s'est passé. Je ne t'ai jamais entendu accuser qui que ce soit, car tu ne savais rien du fin mot de cette histoire. Mais j'ai perçu ton malaise, tes incompréhensions, ton refus. Quand son père est mort, Augustin avait 18 ans. Et plus tard, sa mère a quitté la maison pour rejoindre un autre homme. Mais elle est restée le chef d'exploitation. Quand je rencontre Augustin, elle lui loue la ferme de son père, en fermage. Et sa grand-mère lui loue sa part. À la ferme, Augustin n'a que le statut d'aide familiale, avec une couverture sociale minimum, mais pas de salaire. Et son frère Thomas n'est qu'ouvrier agricole. Lui aussi, Thomas, il a été rejeté. Parce qu'il ne ressemblait pas physiquement à son père. Augustin ne supportait pas ces raconteurs. Un jour, on se chamaillait. Ma main a effleuré son visage. Effleuré. Il s'est mis à pleurer. Je n'ai pas compris. Ça a dû faire remonter des choses enfouies. Il s'est mis à me raconter des histoires anciennes de son enfance. Du genre qui laisse des cicatrices à vif. Je crois que je lui ai donné plus d'amour qu'il n'en a jamais reçu. En tout cas, c'est ce que je croyais. C'est ce que je voulais. On se marie juste après mes 18 ans, en avril 2011. Augustin n'a pas voulu qu'on passe par l'église.
Eh, si Dieu existait, mon père serait pas parti si tôt, non?
Mais même le jour de notre mariage, il a fallu nourrir les cochons. Le vin d'honneur après la mairie a été une catastrophe. Déjà, la mère d'Augustin n'était pas là, alors qu'elle était invitée. Hein. Il n'y avait pas grand monde d'ailleurs, du côté d'Augustin, hormis Thomas et sa femme. C'est avec ma famille que ça a dégénéré. J'avais invité mes parents, bien que séparés, et le vin aidant, ils se sont mis à régler leurs comptes. Et après la noce, pas question de voyage de noces. Après notre mariage, le bonheur. Des balades en quad à l'orée des bois, des virées en baie de Somme ou sur les plages du Pas-de-Calais, une virée à Paris, juste pour déjeuner au restaurant. On devait avoir l'air heureux, ils nous ont offert un verre. Et on a dû rentrer le soir tard pour nourrir les cochons. Et quand il s'est foulé la cheville en descendant de sa moissonneuse, eh bien j'ai dû apprendre à conduire le tracteur.
Tu vas y arriver, Malala!
Et puis, je vous présente l'argot, notre chien, un labrador, un membre de la famille. En vérité, le dernier lien qui me reste aujourd'hui avec Augustin. Il faut que je vous raconte comment fonctionne notre système. On pratique la polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on cultive le blé, l'orge, les févroles, les escourgeons, et qu'avec, on nourrit nos cochons. C'est une économie circulaire. Ce qui fait qu'il y a toujours quelque chose à faire. Hein. En janvier et février, on prépare les terres, on déchaume, on laboure. En mars, on sème l'orge du printemps et les févroles. On a choisi des semences fermières, c'est-à-dire directement issues de nos récoltes de l'année dernière. Pour nourrir le sol, on utilise le lisier de nos cochons et un minimum de produits phytosanitaires. L'été, on moissonne, Au 14 juillet, l'escourgeon, le blé 15 jours plus tard, et les févroles fin août, début septembre. Les mauvaises années, évidemment, nos 50 hectares ne suffisent pas. Alors on est obligé d'acheter. Et pendant ce temps-là, l'élevage se poursuit. Hein. Les inséminations toutes les 5 semaines, les naissances, le tatouage des porcelets. Et tous les jours, il faut les nourrir. 80 à 100 seaux à porter à bout de bras. On a toujours quelque chose à faire. Parfois, au-delà du raisonnable. Une seule demi-journée de repos par semaine, le dimanche après-midi. Le dimanche, on les nourrit une fois et... on mange un bon repas. Et on s'affale sur le canapé, devant la télé. Si on avait eu un enfant, est-ce qu'Augustin n'aurait pas... Ça me taraude, ça. On l'aurait appelé Roman ou Enzo. On n'a pas pu en avoir. Quatre ans après notre mariage, nous n'avions toujours pas d'enfant. On a fini par me détecter un problème au niveau des ovaires. On nous a proposé de faire une FIV, une fécondation in vitro. La première, on a vu deux embryons sur l'écran. Et puis je les ai perdus. On a beaucoup pleuré, beaucoup. Et nouvel échec un an et demi plus tard. À ce moment-là, il ne nous reste qu'un espoir. Trois embryons congelés. Augustin, décidément, notre enfant ne naîtra pas. Un soir, vers 23 heures, Augustin va mettre en marche le moulin qui permet de mélanger les aliments. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il en met du temps. Je sors, je trouve notre chien à l'entrée du bâtiment, porte fermée. Et je n'entends pas le moulin tourner. Augustin? Tu répares le moulin? Il y a un problème? J'ouvre la porte. J'ai une lampe torche pour ne pas réveiller les cochons. D'ailleurs, je les entends ronfler. Un vieil escalier en bois. Augustin ? J'arrive dans le grenier.
Il s'est pendu. Il a accroché une corde à une poutre et il s'est pendu. Heureusement, les pieds touchent le sol, je m'élance, je retire la corde, il me dit.
Pourquoi t'as fait ça ? Allez, viens, on rentre. Cette première tentative de suicide s'est passée entre les deux filles. Avant, Augustin était la force de notre couple. Maintenant, il a besoin de moi pour tout. Il est dévoré par les angoisses. Il a peur. Il a même peur d'aller chez le dentiste et il faut que je l'accompagne. Et certains jours, il ne peut pas travailler. Du coup, j'ai pris un boulot à mi-temps à l'extérieur. Et avec Thomas, on s'occupe de la ferme. Et après, je me bats pour que son médecin consente à le voir vite. Il l'envoie dans une maison de repos, en baie de Somme. Mais jamais, jamais il ne prononce le mot « dépression ». Ou burn-out. Il me parle d'un mal-être qui remonterait à l'enfance. Mais moi, je crois que c'est un burn-out, un épuisement professionnel. Enfin, 70 heures par semaine, deux fois 35 heures. Et les problèmes financiers qui nous pendonnaient. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais on a fini par racheter la ferme en 2011. 100 000 euros pour le matériel, 40 000 pour le bétail et 50 000 pour les stocks. 190 000, dont 60 000 à 6%, remboursables sur 10 ans. On paye de grosses mensualités. Et on n'a pas acheté la terre, hein. Pour la terre, on doit payer en plus un fermage à la mère et à la grand-mère. Ça l'a miné, tout ça. Quand il est rentré de la clinique, je n'ai pas pu l'en empêcher. Augustin a pris un café. Et il est allé au cochon. Et puis, à cette époque-là, d'un coup, nos truies commencent à avoir des portées plus petites. Jusqu'à ce que sur 18 truies inséminées, il n'y en ait qu'une qui devienne pleine. Une seule. On leur fait passer une échographie et on nous dit que ça peut venir des rats. On a bien vu des rats, quelques rats. Mais on pouvait pas imaginer qu'ils viennent contaminer nos truies. On a fait venir un dératiseur, tout est rentré dans l'ordre. Mais ça a eu un impact financier. On n'était pas assuré pour les rats. Il a fallu remplacer les truies devenues infertiles, 2000 euros. Et puis là-dessus est arrivée la crise du porc. On nous achetait le porc entre 1,30 euros et 1,50 euros le kilo. Les cours se sont effondrés d'un coup à 1 euro. On s'est tourné vers la banque. Un crédit à 6%, c'est exagéré. Il n'y a pas eu moyen de renégocier. J'ai demandé si on pouvait avancer l'emprunt que la banque nous octroie chaque année en attendant l'arrivée des subventions de la PAC. Ils ont refusé. Vous savez, ce n'est pas moi, hein. La décision vient du siège. Et puis on devait de l'argent à la coopérative. 18 000 euros. Mais la coopérative, ça fait bien longtemps qu'elle a perdu sa mission originelle, hein. Elle est dans une logique de profit. Elle nous a envoyé une facture de 24 000 euros, avec mise en demeure, 6 000 euros d'intérêt sur notre dos. Au pire moment, ils avaient décidé de nous tuer. J'ai réussi à intercepter la première lettre, mais c'est Augustin qui a ouvert la deuxième. Monsieur, dans l'affaire référencée en marge, du fait que vous n'avez pas jugé utile de donner une suite favorable à mon intervention, je vous informe que je procède à l'exécution forcée des sommes ci-dessous. 24 016,88 €. À défaut d'un règlement sous huitaine, nous saisissons le tribunal compétent qui ne manquera pas de vous occasionner des frais supplémentaires en application des articles 1153 et 1904 du Code civil. Salutations distinguées. J'ai finalement réussi à négocier un échelonnement. Mais sur 24 000, pas sur 18 000. J'ai baissé les bras. Et bien sûr, on a arrêté de payer le fermage à la mère et à la grand-mère. On pensait qu'elles comprendraient. Elles n'ont pas compris. J'ai fini par aller voir notre député, Emmanuel Maquet. Ça a été comme une bouffée d'oxygène. Il a envoyé une lettre à la banque à l'entête bleu-blanc-rouge de l'Assemblée. C'était le 23 octobre. C'était déjà trop tard. Honte. Honte à tous ceux qui ont fait culpabiliser mon Augustin. Quand je suis rentré du rendez-vous avec notre député, j'ai trouvé Augustin en pleurs. J'ai appelé, je lui ai pris un rendez-vous avec le psy. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. En tout cas, ce jour-là, il n'a pas travaillé. Le lendemain, il est parti semer, mais sans entrain. Le jeudi, on a dû annuler le rendez-vous chez le coiffeur. Il n'en avait pas la force. Et là, on a reçu un coup de fil du notaire.
Votre grand-mère réclame expressément le paiement des fermages en retard. Hein, si vous ne le faites pas, j'entamerai une procédure de destitution des terres.
Demain, le vendredi 27 octobre 2017, il m'a réveillé à 6 heures. Il m'a dit « Je me sens plus capable de semer, Lala. Mais t'inquiète pas, je vais tout faire avec toi. » On a commencé par aller nourrir les truies. « Tu sais, Lala, j'ai plus envie d'être agriculteur. » « D'accord, je respecte ton choix. » À midi, j'ai préparé un bœuf bourguignon. C'était son plat préféré. Et puis je l'ai perdu de vue pendant quelques minutes. Quelques minutes, pas plus. On l'a appelé avec son frère.
Mon Augustin, t'es où?
Son frère est allé au hangar.
Je l'ai entendu crier, c'était glaçant.
C'est lui qui a décroché la corde. On a essayé de le ranimer.
C'était trop tard. Il s'est pas suicidé. Il a été tué. Tué.
Le lendemain, je suis allé à la boîte aux lettres. J'y ai trouvé un courrier de notre député.
Il avait décroché un prêt du Crédit Agricole. L'argent était déjà sur le compte. Le lendemain.
Mardi 31 octobre. Tu es parti depuis vendredi. J'ouvre le journal. Un éleveur de porc de laine a tué ses trois enfants et sa femme et a mis fin à ses jours. Toi, Augustin, tu as voulu que je vive. Tu m'as laissé en vie pour que je témoigne. Notre monde est devenu fou. Il tue les paysans qui l'alimentent. Je vais le dire, je te le promets. Je vais le répéter et tu m'aideras à trouver les mots. Je t'aime. Je t'aimerai toujours.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.